21h passées de quelques secondes, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Ce soir, j'ai le plaisir de le retrouver, je l'ai déjà rencontré à deux occasions, 2013 et 2014, vous l'avez donc déjà entendu dans Wagon Livre. Alors plutôt brièvement, c'était des entretiens de 15 minutes, ce soir on va passer l'heure avec lui. C'est Gilles Paris. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Yannick.
Très content de te retrouver donc pour alors, la sortie d'un nouveau roman, un roman tout frais, un peu plus d'un mois maintenant qu'il est disponible en librairie. Roman qui a pour titre Le Vertige des Falaises et que l'on peut se procurer aux éditions Plomb. Alors Gilles, heureux de te retrouver. Je l'ai dit, en 2013, on s'était rencontrés dans une station thermale dans la Nièvre, c'était à Saint-Honoré-les-Bains. À ce moment-là, nous avions parlé, tu nous avais parlé de l'autobiographie d'une courgette qui a depuis connu une postérité cinématographique, un succès remarquable dont tu es immensément heureux et qui t'amène à sillonner la France en long et en large pour la promotion et du film et du roman.
Et du roman, tout à fait. C'est une histoire assez incroyable parce qu'on ne peut jamais prévoir les succès. On peut toujours s'imaginer en effet qu'un film va marcher. Il faut savoir quand même que Ma vie de courgette, le film de Claude Barras dont on parle, réalisateur suisse, présenté à Cannes au festival, va sortir en octobre de l'année dernière, 15 ans après la parution de mon second roman, Autobiographie d'une courgette, qui avait déjà connu une adaptation à la télévision en 2007. Et Claude Barras va mettre du temps, il faisait des courts-métrages avant, hein, c'est son premier long-métrage. Et en fait, un de ses associés lui avait conseillé de lire Autobiographie d'une courgette. Il a un coup de foudre, il achète les droits, il va mettre 5 ans pour trouver les financements, 1 an et demi pour tourner le film, et puis encore 1 an où il va attendre avant d'être sûr d'être bien sélectionné dans les bons salons qu'il faut, d'animation comme Annecy, comme Angoulême et tout ça. Et c'est une histoire qui va partir vraiment, comme je le disais, du Festival de Cannes, avec un coup de foudre non seulement du public, mais de la presse, c'est-à-dire qu'il va être unanime. On va parler de ce film comme d'un petit bijou, et ça ne va pas cesser jusqu'à sa sortie. In fine, le film rencontrera un vrai succès avec 800 000 téléspectateurs. Je rappelle que c'est un film d'auteur qui est tourné en stop motion. Et pour vos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que le stop motion, je vous précise que c'est très simplement, il n'y a pas de caméra. Ce ne sont que des appareils photo qui donnent cette animation aux marionnettes qui sont irrésistibles, avec des grosses têtes, avec des yeux pleins de sensibilité. C'est un film absolument somptueux qui aura récolté 20 prix, dont 2 Césars, un César de la meilleure adaptation et un César du meilleur film d'animation, une nomination aux Oscars, Golden Globes, un truc de fou quand même, vraiment un truc de fou, et j'ai pris plaisir à suivre tout ça. C'était des émotions fortes quand même, un peu comme les montagnes russes, et en même temps, ça s'apparentait, pour la première fois de ma vie, à un vrai conte de fées.
Alors ce roman, tu l'as dit, Autobiographie d'une courgette, est sorti chez Plomb en 2002, tu l'as rappelé, donc il y a 15 ans. Ton premier roman date de 1991. En 1991, tu es toujours jeune, mais tu es un jeune homme.
J'ai une petite trentaine.
Et ce premier roman a un titre très surprenant, un peu bouleversant, « Papa et maman sont morts ». Tu peux nous le présenter un peu, Gilles, s'il te plaît ?
Oui, alors d'abord le titre, évidemment, dès qu'on est adulte, on le lit d'une manière très différente. Demandez à un enfant de le lire, il va presque en rire en vous le prononçant, parce que c'est un peu comme « Le roi est mort, vive le roi », c'est une sorte d'hommage à la famille inversée. Au fond, finalement, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Et si on pouvait faire le contraire ? C'est-à-dire, autrement dit, c'est 2 enfants qui perdent leurs parents et qui ont décidé de se choisir une nouvelle famille, un père et une mère. Ils vont finir par les trouver. C'est assez rocambolesque parce que, vraiment, à travers le prisme de l'enfance, de ces enfants très attachés l'un à l'autre, un frère et une sœur, on va découvrir qu'ils échappent à 1000 dangers. Eux transforment tout en poésie, tout devient beau, alors que le monde autour d'eux ne l'est pas.
Il faut dire, Gilles, que tu abordes des thèmes graves. Souvent, tes personnages, à la fin du roman, s'en sortent bien. La vie triomphe, l'optimisme triomphe. Néanmoins, tu abordes l'enfance sous des angles souvent extrêmement tristes, qui nous émeuvent, qui nous font pleurer également. Non, je. Si, tu me trouves excessif ?
Non, pas du tout. C'est assez juste, mais je trouve que je ne m'appesantis jamais dessus parce que je pense que les difficultés qu'on a tous connues, n'importe qui connaît à un moment donné ou un autre dans sa vie des moments pénibles. C'est pas tellement ça qui est important, c'est ce qu'on en fait au fond. Et c'est pour ça que derrière les thèmes qui sont les miens et qui sont en effet des thèmes pas faciles, il y a cet espoir, il y a cet optimisme toujours, parce que tous mes enfants sont résilients, que je le suis moi-même, qu'il faut savoir se battre dans la vie, ne jamais laisser tomber les bras. Les hôpitaux sont pleins de gens qui ont tout arrêté. On n'en parle jamais assez de ces gens-là. Donc il faut arriver à un moment donné à transformer l'épreuve en quelque chose de joyeux et arriver à en faire quelque chose qui vous donne de l'élan.
En fait, Gilles, tu fais tienne et tes personnages illustrent la maxime qui consisterait à dire « ce n'est pas ce que vous êtes maintenant qui compte, c'est ce que vous allez devenir ».
Oui, absolument. J'en suis convaincu et quelle que soit la difficulté qu'on traverse, dans l'autobiographie d'une courgette, un petit garçon tue sa maman par accident, ce qui est quand même assez atroce. On va dire qu'il démarre assez mal dans la vie. Et le paradoxe du livre, c'est que dans cette maison d'accueil, il va trouver l'amour dont sa mère le privait, l'amitié avec tous ses petits camarades d'infortune, le respect des adultes à travers le pouvoir et la manière que les éducateurs ont de s'occuper de ses enfants. Et quelque part, entre guillemets, bien sûr, c'est un peu sa chance. C'est-à-dire que c'est une histoire à laquelle on ne pouvait pas s'attendre. C'est une sorte de conte de fées, là, à l'envers.
Alors, le petit Courgette, il est vrai, tu l'as dit, sa mère est alcoolique. Bon, elle, c'est une fanatique de Céline Dion. C'est un enfant mal aimé qui va se retrouver placé dans une maison d'accueil. Je crois qu'il y a Ahmed, dont le papa est en prison. Il y a une autre petite fille, c'est celle qui mange ses crottes de nez. Parce qu'on on rit Alice, aussi, c'est l'enfance.
Oui.
C'est l'enfance.
On rit toujours, hein. Mes livres sont parfois tristes, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la drôlerie, il y a toujours de l'humour dans n'importe lequel de mes livres. Peut-être un peu moins le dernier, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Mais dans tous mes livres où je prends des narrateurs de 9 ans, en effet, il y a de l'humour, il y en a même beaucoup.
Confirmes-tu, Gilles, que Autobiographie d'une courgette, le scénario, l'histoire était déjà apparu très très jeune? C'est-à-dire que tu avais commencé à l'écrire sous forme de nouvelles.
Absolument, j'ai fait ça, je pense, à l'âge de 14 ans, parce que je ne datais pas mes nouvelles, malheureusement. Donc je le fais de mémoire à peu près par rapport à l'ordre chronologique. J'en ai écrit plus d'une centaine. Et à 14 ans, j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait Icare et Camille. Alors, il n'était pas question de courgette encore dans le surnom. Et ce n'était pas tout à fait la même histoire parce que, évidemment, à 14 ans, je ne savais pas grand-chose des maisons d'accueil. Ce n'est pas mon histoire non plus, comme ont cru beaucoup de gens. J'ai plutôt une enfance heureuse, donc peut-être que c'est ce qui donne aussi parfois la distance pour parler d'enfance qu'ils le sont moins. Je suis très surpris, par exemple, dans les projections auxquelles j'ai pu assister. Avec tous ces enfants qui adorent le film, dont les parents ont même acheté le DVD et qui le revoient 3-4 fois de suite, c'est qu'ils puissent avoir cette notion, cette conscience qu'il y ait d'autres enfances qui ne soient pas les leurs. Et c'est bien, je trouve que ça les éveille aussi à une certaine réflexion. Les films d'animation, c'est pas le premier film d'animation à faire ça, mais je trouve que c'est intéressant cette réflexion que ça offre aux enfants.
Autobiographie d'une courgette, ça n'a aucun rapport avec ta propre enfance. Il n'y a pas d'élément personnel dans ce livre. En revanche, tu t'es glissé dans une véritable maison d'accueil. C'est là que tu as découvert que les éducateurs, les adultes qui prenaient en charge cette enfance malheureuse, cette enfance en souffrance, faisaient un travail remarquable. Et tu es resté en observation pendant très longtemps, je crois, avec ces enfants.
Je ne pouvais pas écrire un roman sans rien savoir des maisons d'accueil. Ce n'était pas possible. Je n'allais pas faire un roman comme je le souhaitais, comme j'ai souvent fait. Mon premier roman est aussi adapté d'une nouvelle. Et mon prochain, le sixième, sera adapté aussi d'une nouvelle, le prochain qui arrivera plus tard. Mais il en reste assez peu au fond de la nouvelle, parce que j'ai toujours aimé dans chacun de mes romans, à plus ou moins degré, on va dire que dans l'autobiographie d'une courgette, c'était vraiment un travail de fond de découvrir exactement ce que c'était qu'une maison d'accueil et de ne pas raconter n'importe quoi, tout simplement, de prendre le temps d'écouter les éducateurs, un juge, une psychologue, une directrice qui m'a accueilli très gentiment, alors que bon, j'avais juste publié un roman 10 ans auparavant, mais elle a été très chaleureuse et elle m'a ouvert les portes de cet endroit et avec les enfants aussi. Il a fallu du temps aussi donc pour comprendre le système et ne pas écrire n'importe quoi et donner aux gens le sentiment que le métier d'éducateur, par exemple, est un métier qui est assez peu honoré en général, on en parle assez peu, et ils font un travail inouï avec les enfants. Mais ils ne travaillent pas tous de la même manière. C'est ça qui est intéressant. Vous avez une Rosie, par exemple, dans le roman. Je me suis beaucoup inspiré des éducateurs que j'ai rencontrés, pas des enfants. Les enfants, j'ai inventé les histoires. Mais les éducateurs, il y en avait une, elle n'avait pas de vie privée, les enfants étaient ses enfants. Pour elle, c'était absolument très important de leur donner le plus d'amour qu'elle avait en elle, quoi. Donc, vous aviez un autre éducateur masculin qui mélangeait parfois le week-end certains enfants du foyer avec les siens, qu'il avait eu avec sa femme, qui était présente. Et donc, il avait ce mélange comme ça, du dimanche, du déjeuner dominical, avec ses enfants et quelques enfants triés de la maison d'accueil. Et puis un autre qui se donnait beaucoup, mais qui, passé une certaine heure, se disait « Je ne suis plus dans la maison d'accueil, j'ai une autre vie. » Et je n'inviterai personne le week-end chez moi. Et voilà, chacun avait ses méthodes de travail, d'approche. C'est ça que j'ai voulu rendre aussi à travers le livre Autobiographie d'une courgette.
Dans ce roman, Gilles, tu utilises les moyens linguistiques des enfants. Et là, je me dis, comment arrive-t-on à faire parler les enfants comme les enfants de 9 ans aujourd'hui parlent, encore qu'ils soient quand même très, très, très évolués parfois?
Les enfants évoluent toujours, c'est-à-dire qu'un enfant de 9 ans aujourd'hui ne parle pas comme il y a un enfant de 9 ans il y a 10 ans ou 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Tout a évolué aujourd'hui. Un enfant de 9 ans, franchement, il sait tout. On ne peut pas la lui faire, on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Ou alors, il a été élevé dans un igloo, ou alors il a été élevé au fond d'une cabane. Mais franchement, la plupart des petits mômes à 9 ans, c'est fini. Nous, notre enfance, on nous racontait les cigognes, les choux, les roses. Non, mais il n'y en a pas un qui y croit aujourd'hui. Ils savent très très bien comment tout ça se passe. Donc, il fallait adapter aussi une sorte de langage un peu universel d'une certaine manière. Je savais dès le départ que Courgette parlerait mal, qu'il y avait des tas de fautes de grammaire et de syntaxe, mais qui étaient absolument voulues, évidemment, de ma part. Et d'ailleurs, j'avais mon correcteur qui devenait dingue sur l'ordinateur, parce qu'évidemment, il y avait tellement de fautes qu'il voulait tout corriger. Mais voilà, mais je trouvais que c'était intéressant. Puis, un peu élevé à la campagne, un peu seul avec sa mère. Il faisait pas vraiment d'école, il avait personne qui venait le voir. Donc on peut croire en effet à toutes ces erreurs de syntaxe. Je pense que c'était encore plus heureux par rapport au destin qui l'attend.
Alors, illustration justement de cette syntaxe enfantine que l'on trouve dans Autobiographie d'une courgette, et cette citation, elle illustre, et je te demanderai, Gilles, également de développer un peu, bien sûr. « Des fois, les grandes personnes faudrait les secouer pour faire tomber l'enfant qui dort à l'intérieur. »
Oui, parce que les adultes, en général, évidemment, oublient un peu cette part d'enfance qu'ils ont en eux. Et c'est très difficile, ils ont des vies, on ne peut pas leur reprocher non plus. On n'a pas tous, moi je me mets avec eux, on n'a pas tous des vies faciles. Et donc, cette part d'enfance, c'est quoi? C'est un peu d'émerveillement, un peu de curiosité des autres, s'intéresser à autre chose que sa vie, quoi, son quotidien, découvrir des gens, aller vers eux. Et ça, je le remarque de plus en plus autour de moi, peut-être parce qu'il y a trop de fatigue, peut-être parce qu'il y a trop de dégoût, j'en sais rien, mais c'est vrai que les gens ont assez peu tendance à aller les uns vers les autres.
Alors écoute Gilles, on va aller nous vers une première pause musicale à bord de Wagon Livre. Nous sommes donc ce soir avec Gilles Paris. On parle bien sûr, et nous parlerons de son prochain roman. Là, il fallait absolument marquer une escale autour de l'autobiographie d'une courgette. Le dernier roman de Gilles a pour titre Le Vertige des Falaises et il est disponible en librairie aux éditions Plon. On se retrouve dans une poignée de minutes.
The walls, knows he tires easily. says he changes his mind more than a woman. But she made a bet, even when the chance was slim. He's willing to learn when he decides he's a fool. Johnny says he'll live anywhere when he owns time to. Mary combs her hair, says she should be used to it. Mary always hedges her bets, she never knows what to think. She says that he still acts like he's being discovered, that he'll be caught without a second thought, running around. Johnny feels he's wasting his breath trying to talk. Mary says he's lacking a real sense of proportion. So she comes at him, knows he tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, Johnny's always running around. Running around.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est le romancier Gilles Paris qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre. Alors Gilles, je dois aussi quand même préciser que tu es auteur, mais tu es aussi attaché de presse. Alors il y a eu à une époque l'agence Gilles Paris qui défendait, faisait la promotion des écrivains et de leurs nouveautés littéraires. Alors aujourd'hui Gilles, tu poursuis mais sous une autre forme.
Oui, le freelance, et ça me plaît bien parce que j'espère d'ici quelques années justement défendre peut-être moins de livres et davantage en écrire, et que c'est une bonne formule en effet pour passer de l'un à l'autre. Ça fait 30 ans maintenant que je fais ce métier. J'ai dirigé plusieurs services de presse, chez Plomb notamment pendant 10 ans, chez Lattès pendant 7 ans, chez Carrère pendant 3 ans. Et tout ça cumulé fait à peu près 30 ans de métier, attaché de presse. C'est un très vilain mot d'ailleurs, je préfère le mot anglais, public, relation, qui a attaché, c'est pas très joli je trouve. Ou alors je dis attaché de près par exemple, il y a des auteurs que j'aime beaucoup et je me considérerais attaché de près envers eux.
Justement, est-ce que ce n'est pas un peu délicat quand on est des deux côtés, à la fois auteur, romancier, créateur, et à la fois celui qui assure la promotion d'un livre, avec tout de même des exigences commerciales, une séduction, un teasing qui est important et qui compte tout de même beaucoup?
Oui, bien sûr, mais je pars du principe qu'il faut avoir certaines règles dans la vie, c'est important. Elles sont faites parfois pour être transgressées, bien sûr, mais Les éditeurs me payent, j'ai un salaire, les éditeurs me payent pour défendre leurs auteurs, pas pour leur parler de mes livres. Donc j'ai créé depuis toujours, parce que j'ai commencé à écrire avant d'entrer dans l'édition, et quand je suis entré dans l'édition, j'ai créé une espèce de distance amicale, sympathique, avec tous les auteurs que j'ai toujours défendus. Quelques-uns sont devenus des amis, comme Jeannine Boissard, comme Tatiana Dronet, et quelques autres, Catherine Hermarie-Vieille, mais ils sont très rares, les auteurs qui rentrent vraiment dans ma vie et qui deviennent des amis. J'ai une forme de distance avec les autres. Je prends beaucoup de plaisir à les défendre. Mais je connais ma place, je connais la leur. Et je trouve qu'il faut, dans ce métier, avoir une certaine rigueur. Il y a trop de gens qui mélangent tout. Moi, j'aime bien mettre le haut là, justement, et ne pas... Je trouve d'ailleurs que pour vivre, on l'a toujours dit, c'est une adage très connue, mais pour vivre, heureux, vivons cachés. Et je pense que c'est assez juste. En France, on n'aime pas trop la réussite. On n'aime pas trop que vous fassiez plusieurs métiers. On n'aime pas trop que vous cumuliez les choses. Et si vous le faites, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Elles ne sont pas seulement financières. Donc évidemment, il faut arriver... Moi, je suis un bélier, un vrai bélier. Je vais au bout de mes rêves. Je vais vraiment au bout de ce que je veux faire. Et je fais mon métier avec beaucoup de passion. Mais quand je fais mon métier avec beaucoup de passion, je ne suis écrivain que quand je ressens une certaine part d'angoisse ou de tension dans la part de l'auteur que je connais bien pour l'avoir vécu moi-même. Ce qui fait qu'il y a quand même des passerelles entre mon métier d'écrivain et mon métier d'attaché de presse.
Tu écris les mots de l'enfance. Donc les mots, bien sûr, ce sont ceux que tu utilises dans tes romans. Les mots de l'enfance, tu les retranscris. Pourquoi ne sors-tu pas de l'enfance ? Parce que moi qui ai lu sur tes 5 romans, j'ai lu effectivement « Autobiographie d'une courgette », j'ai lu l'été des Lucioles pardon, et le dernier, tous les 3 évoquent l'enfance sous des facettes différentes.
En fait, je voulais prendre un risque. Je pense que le Vertige des falaises parle de l'adolescence à travers Marnie, qui a 14 ans, mais je pense que surtout, ça m'a permis... en écrivant un roman choral, c'est-à-dire en donnant la parole à un certain nombre de personnages dans ce roman, de développer tout ce qui me manquait avec les enfants de 9 ans. C'est-à-dire qu'en fait, quand on écrit dans la tête d'un enfant de 9 ans et qu'on s'exprime comme lui, il y a un vocabulaire limité. On ne peut pas aller au-delà de ce vocabulaire, sinon on ferait grandir l'enfant trop vite et ça ne serait pas possible. Donc, j'avais, avec l'été des Lucioles, j'avais commencé un peu à développer cette partie romanesque, justement. Mais là, vraiment, avec le Vertige des falaises, je me suis réjoui et j'ai pris un risque en faisant grandir d'une certaine manière mes personnages. Il y est encore question d'une certaine enfance, mais il est question quand même d'adulte-enfant, d'une certaine manière.
Alors justement, parlons-en du Vertige des falaises, ton dernier roman, Gilles. D'ailleurs, on apprend que l'idée de ce roman t'est venue après la relecture de La Maison Biscornue d'Agatha Christie.
Absolument.
Dans lequel tu as emprunté d'ailleurs quelques éléments, notamment le prénom d'Aristide.
Je suis assez fan d'Agatha Christie, j'ai lu tous ses livres, elle en a écrit 84 romans quand même, puis beaucoup de nouvelles et beaucoup de pièces. J'ai tout lu d'elle, de toute façon, j'ai toujours aimé cette manière qu'elle avait de vous amener vers la fin, un peu théâtrale, en réunissant Hercule Poirot ou quelqu'un d'autre dans la pièce pour dévoiler tous les mystères. Mais en fait, quand on relit un roman d'Agatha Christie, on se rend compte qu'elle sème des petits cailloux pour vous aider un peu à découvrir qui sont les coupables. Et puis, je trouve qu'elle avait ce côté anglo-saxon que j'aime bien. J'ai lu, quand j'étais adolescent, plus de livres anglo-saxons et américains, ou anglais d'ailleurs, que de romans français. Je suis venu très tardivement à Victor Hugo, Zola. Il a fallu attendre quasiment mon année de terminale pour m'y mettre. Et j'étais fasciné par l'univers d'auteurs comme Tennessee Williams. La seule qui a franchi la barre, c'est François Sagan, que j'ai connu plus tard en étant son attaché de presse. Mais d'abord, j'adorais la lire. Et ça correspondait vraiment aux auteurs que je recherchais. Et Agatha Christie, ça me plaisait. Et dans La Maison Biscornue, qui n'a pas de rapport avec Le Vertige des falaises directement, j'ai emprunté le nom du grand-père qui s'appelle Aristide. La digitaline qui a un effet spécifique à un moment donné au cours du roman. Et peut-être, d'une certaine manière, un clin d'œil à ses livres, oui, probablement.
Alors, justement, le décor du Vertige des falaises, l'action se passe sur une île sauvage, désertée, et qui est dominée par une famille, les Mortemer, qui s'y sont installés. qui habite une maison qui s'appelle Glass. Hein. C'est une maison de verre avec une armature métallique. Et dans cette maison, bon, c'est une famille très particulière qui a des aspects à la fois très excitants et repoussants.
C'est une famille d'aristocrates, mais pas d'aristocrates déchus comme le sont souvent les familles aristocratiques aujourd'hui. Ils sont très riches, les Mortemer. Olivia, la grand-mère, qui règne un peu sur tout ça, a hérité de la fortune de son mari, qui est mort d'une crise cardiaque. Et cette fortune, évidemment, elle compte bien la laisser à sa petite-fille, Marnie, qui est une fortune qui lui permettra non seulement de quitter l'île, mais de vivre toute sa vie à l'étranger si elle le souhaite. Et c'est une famille, comme toutes les familles aristocratiques, où il y a des règles très précises. Hein, on ne pleure pas aux enterrements, on ne dit pas ce qu'on pense, on ne se plaint pas, on ne chouine pas, voilà, on se tient droit. Enfin, voilà, et toutes ces... Alors c'est drôle parce qu'ils ont des règles, en effet, qui sont assez drastiques. Et parallèlement à ça, c'est aussi, d'une certaine manière, on le verra, un roman à morale.
Alors effectivement, il y a une petite fille, Rousse, qui d'ailleurs sait plein de choses. Elle observe, elle est comme toi. Elle se pose, elle observe.
Tout à fait comme moi. Oui, c'est, en plus, Marnie, c'est vraiment, je le dis parce que je le sens profondément et je l'ai ressenti tout au long de l'écriture de ce livre. Marnie, c'est ma part d'ombre. Je pense que les gens me connaissent comme quelqu'un d'assez avenant, souriant, ce que je suis de toute façon dans la vie.
Je confirme.
Et très, voilà. Mais j'ai une part qui est un petit peu plus obscure, un peu plus sombre. Et je trouvais que l'exprimer à travers une adolescente de 14 ans, c'était vraiment intéressant d'arriver à sortir tout ça de moi et d'en faire un personnage au fond.
Alors, la difficulté, c'est de ne pas trop raconter le roman. Mais Marnie, bien sûr, grandit dans cette maison de verre. C'est une sorte de petite peste. Elle est à la fois très rêveuse. Elle joue avec le vide, elle joue avec le ciel. D'où le titre du roman, Le vertige des falaises.
Tout à fait.
Et pour elle, il s'agit non seulement de trouver sa place, il s'agit aussi de savoir d'où elle vient, qui elle est, l'identité. C'est toujours le monde des adultes qu'elle observe avec un regard cruel parfois, moqueur,
mais
attendrissant quand même pour sa grand-mère.
Elle a ses raisons, comme elle le dit, puisque, comme tu le soulignais, c'est quelqu'un de très curieux et qui passe son temps à coller son œil aux serrures, qui s'allonge dans un canapé de la bibliothèque en sachant très bien que les adultes à côté sont en train de parler et l'ont oublié. C'est quelqu'un qui sait beaucoup plus de choses qu'elle ne dit. Et comme elle le souligne plusieurs fois, au fond, elle a 14 ans et 100 ans. Elle a l'impression d'avoir vieilli prématurément et que ce monde des adultes l'a vraiment, quelque part... lui a fait du mal, quoi, d'une certaine manière. Et alors, elle est pas tout à fait une adolescente comme les autres. Elle a pas de portable, sa grand-mère le lui interdit. Elle s'intéresse pas aux ordinateurs, ce qui est assez incroyable aujourd'hui pour une adolescente. Ce qu'elle aime, c'est marcher pieds nus sur sa terre, se baigner nu dans les criques. Elle aime la nature profondément. Elle aime Jeanne, qui est la fille de l'intendante de la maison, qui s'appelle Prudence. Et avec Jeanne, elles font les 400 coups un peu, toutes les deux. Elle n'a jamais, au moment où commence le roman, on est au milieu de l'histoire, il faut le préciser. Donc il va bien falloir retourner dans le passé pour comprendre ce qui est arrivé. Et puis l'avenir, qu'est-ce que c'est? C'est probablement Marnie, l'héritière des Mortemer, qui va devoir trouver à un moment donné sa voie.
Alors Marnie, c'est aussi, et ça colle complètement avec le cadre de ce roman, c'est un prénom que l'on trouve dans un titre de film de Hitchcock.
Tout à fait, dans Pas de printemps pour Marnie. Et il y avait un article très joli du Point cette semaine qui d'ailleurs signalait un printemps pour Marnie. Cette fois-ci, elle a le droit à un printemps. Et je trouve ça, c'est juste. Alors c'est aussi, c'est vrai, un hommage à Hitchcock. Je suis fan de ses films. Je suis fan des films quand il adapte notamment Daphné du Maurier. Il va adapter trois de ses romans. Il va adapter L'Auberge de la Jamaïque, Les Oiseaux, qui est une nouvelle au départ de Daphné du Maurier. Et puis surtout Rebecca, qui est un petit chef-d'œuvre qu'on a revu il y a un mois ou deux à la télé. Moi, à chaque fois, je le revois avec autant de plaisir. Quand on y réfléchit, on ne sait jamais si les héroïnes d'Hitchcock sont des coupables ou des victimes. C'est très intéressant, en fait. Elles ont l'air absolument angéliques, mais voilà, elles pourraient vous poignarder dans le dos sans que vous puissiez vous y attendre.
Alors, petit clin d'œil à Sir Alfred Hitchcock. Est-ce que, comme lui, tu sais qu'il apparaît toujours, très souvent, au tout début de ses films, dans les 4-5 premières minutes de ses films, Hitchcock souvent traverse Est-ce que toi, à un moment, il y a un personnage qui éventuellement pourrait être toi dans ce roman?
Tous.
Et que je n'ai pas deviné.
Ah bon? Tous. J'ai mis de moi dans chacun des personnages. Je suis chacun des personnages du roman.
Okay, alors, il y a un petit bout
pas en totalité, bien sûr.
Un petit bout de Luc. Ouais. Un petit bout de Vinci, ouais. On va parler aussi de cet autre adolescent.
Je suis vraiment, c'est un roman qui m'a vraiment amusé à construire, parce que le roman choral, c'est un peu comme si tu faisais un dîner chez toi où tu invites des amis. Et tu vas leur servir un repas succulent, ils vont boire un vin excellent, vous allez converser pendant toute la soirée, vous êtes sous le même toit, la même pièce, vous respirez le même air. Et puis le lendemain, tu vas leur demander d'écrire un feuillet sur le dîner. Tu vas avoir autant de versions que d'invités. Et le roman choral, c'est ça. C'est à chaque fois une version différente qu'un personnage amène. La famille Mortenaire a tendance à se croire un peu maître des lieux, on va dire. Et on va se rendre compte que ce n'est pas tout à fait le cas dans le cœur des gens.
Alors effectivement,
de Lille.
Tantôt on a le point de vue donc de la grand-mère de Marny qui se prénomme Olivia, tantôt on a le point de vue de Prudence, tantôt on a Vinci donc qui est l'adolescent dont Marny est amoureuse.
Le futur.
Et pourtant c'était mal parti entre les deux parce que tout de même elle est capable de beaucoup de violence. Elle a failli le tuer.
Elle a fait ce que j'ai fait quand j'étais adolescent. J'ai planté un compas dans le ventre d'un garçon. Alors, je ne me souviens plus trop pourquoi, mais je pense qu'il m'agaçait un peu. Et elle en fait autant avec ce Vinci, parce qu'il la regarde un peu trop près. Et donc, ensuite, Jeanne, son amie, la fille de Prudence, va lui dire d'aller s'excuser. Et donc, elle va s'excuser et elle va rencontrer vraiment Vinci. Il va y avoir un début d'histoire entre eux.
C'est surprenant ce que fait Marny sur ce garçon qui est le fils du pharmacien de Lille. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle poignarde peut-être aussi une autre enfance, qui est peut-être sa propre enfance.
Oui, c'est une manière... Ce roman est plein de violence, en fait, et de violence sous toutes ses formes. Je voulais d'ailleurs que l'île, en même temps, résonne à la violence de cette famille. C'est une île inventée, c'est une île qui est mélangée, en fait. Mais ça pourrait faire penser à ces îles américaines où les climats sont aussi violents, parce que pour déraciner des troncs d'arbres et faire voler les toits en éclats, il faut quand même une force très violente. On a eu des tempêtes en France, mais voilà. Donc c'est une île où ce climat n'est jamais assuré, et on va se rendre compte que la violence physique, la violence morale, la violence sourde a fait son chemin, au fond, dans cette maison de verre et d'acier.
Et la violence des secrets, également.
Et la violence des secrets, absolument, qui sont... Alors, j'avais envie, pour les secrets et toute la partie des révélations, que les gens ne s'y attendent pas, et surtout, que ça occupe, non pas comme Agatha Christie, un chapitre ou deux, mais là, je voulais vraiment que ça occupe pratiquement un tiers du livre.
Gilles, si tu le veux bien, nous marquons une nouvelle petite virgule musicale. On souffle un peu, on laisse nos auditrices et auditeurs s'offrir une petite infusion. Je rappelle que c'est Wagon Livre et nous sommes en compagnie de Gilles Paris pour son dernier roman, Le Vertige des Falaises, qui est tout frais. Hein, ça fait un mois et demi qu'il est en librairie. L'entretien que vous entendez ce soir a été enregistré le 10 mai dernier, alors que Gilles Paris était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Et nous avons eu le bonheur, Gilles, hein, d'enregistrer cette émission dans les jardins du Grand Hôtel de la Cloche, ici à Dijon.
C'est divin. J'ai un ours énorme devant moi que j'adore et qui me fait un clin d'œil.
Eh bien, on se retrouve dans une poignée de minutes.
Je serai là, j'épouserai la pluie, le vent, le soleil. c'est la pluie,
le soleil et les éléments.
Et je te quitterai vraiment.
Et je
me quitterai aussi.
L'air ne sera que du vent.
Comme l'oubli.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Le vertige des falaises, c'est le titre de notre invité, c'est Gilles Paris qui nous accompagne... Sur Radion, à bord de Wagon Livre, ça va Gilles, les banquettes de Wagon Livre sont moelleuses?
Oui, très, je trouve, très confortable.
Le roman est disponible en librairie et il est sorti aux éditions Plon. Alors revenons à cette étrange petite fille. Bien sûr, on ne va pas trop parler du passé de cet enfant. Il est évident qu'il y a un secret encore lié aux origines de cet enfant dans cette famille aristocratique, la famille de Mortemer, sur cette île qui n'a pas de nom. Mais l'île est un personnage. D'ailleurs, Marny, comme sa grand-mère Olivia, impossible pour elle de vivre ailleurs que sur cette île. C'est vraiment, elle le dit, c'est notre ancre.
C'est notre ancre, elles sont faites pour ça. Et puis c'était, je trouve important, en plus de ne pas nommer l'île, je trouve que c'est déroutant pour un lecteur et qui peut à la fois perdre ses repères en entrant sur cette île et donc peut-être mieux en ressentir les effets à la fois positifs et ceux qui le sont moins. Je trouve que quand on n'a pas le nom d'un lieu, la maison par exemple porte un nom comme un personnage, mais l'île ne s'appelle pas plus que le continent d'ailleurs.
D'ailleurs, page 41, je crois que c'est Marny qui l'écrit, ou peut-être sa grand-mère. Hein. L'île nous retient comme des otages volontaires.
La grand-mère. Hein.
Et alors, effectivement, il faut bien préciser, on l'a dit précédemment, c'est un roman choral, c'est-à-dire que tantôt c'est la grand-mère Olivia qui s'exprime, ensuite c'est Marny, ensuite c'est Vinci, tantôt c'est Prudence, ou alors c'est le curé de l'île.
Il peut arriver que Marny parle sur trois chapitres de suite, c'est des chapitres très courts parce qu'il fallait... Dans la construction et dans la manière dont je voyais le roman, il fallait vraiment que le lecteur soit happé, que chaque chapitre soit presque écrit comme une nouvelle au fond, avec un début, un milieu, une fin, une chute qui donne envie d'aller au chapitre suivant, et de construire en fait tout le livre comme ça. Et le roman choral, ça peut être casse-gueule, c'est pas facile. Parce qu'il faut que le lecteur se rende bien compte qu'il passe d'un personnage à l'autre. Alors évidemment, on a mis le nom du personnage en haut de chaque chapitre. Ça, là n'est pas le problème. Mais pour l'écrivain, ce qui est beaucoup plus difficile, puisqu'on fait parler autant de gens, ça veut dire que je dois non plus être dans la tête d'un enfant de 9 ans, mais je dois être dans la tête d'une septuagénaire, je dois être dans la tête de sa belle-fille qui s'appelle Rose, qui est en train de décéder d'un cancer. Je dois être une adolescente de 14 ans.
Ou la fleuriste de l'île, Agatha.
Je dois être la fleuriste de l'île.
Ou le curé,
ou le médecin
de l'île.
Donc voilà, et il ne faut pas que leur vocabulaire se ressemble. Donc il faut faire très attention à ça. Mais ça, c'est comme regarder une cathédrale. Ou c'est comme faire ce que je faisais quand j'étais adolescent. J'adorais les puzzles qu'on faisait avec 1000-1500 pièces. Je faisais exprès de ne pas regarder l'image au départ pour ne pas savoir où j'allais. Et après, j'étais absolument ébloui après des semaines et des semaines, évidemment, parce qu'on y passait un temps fou. Et je trouve que le roman est conçu un peu comme une sorte de puzzle géant aussi.
C'est vrai, Gilles, tu as raison. C'est une sorte de mosaïque chorale où chaque personnage, justement, contribue à la révélation. Et c'est ainsi.
Je suis fasciné dans les rapports humains qu'on a tous les jours avec les gens. Je suis fasciné par le fait qu'on n'est pas dans leur tête et qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent. Ils peuvent vous regarder avec beaucoup de gentillesse et penser le contraire, ou penser à autre chose d'ailleurs. Et donc, on ne sait jamais franchement, quand on discute avec une personne, ce qu'elle pense véritablement de vous. Et donc, le roman choral permet justement d'avoir toutes les versions possibles de ce qu'imaginent les gens et comment les gens de Lille conçoivent cette famille Mortemer.
Alors, les adultes n'ont pas tous le beau rôle dans ce roman. Certains sont de beaux dégueulasses. On peut le dire. Les hommes. Et les hommes ont effectivement... Alors, le grand-père Aristide, bon... Pourtant, brillant architecte qui a construit cette maison de verre que tout le monde voudrait venir voir, mais il chasse le moindre curieux en dégainant la une.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de maison d'hôte, il n'y a pas de touristes sur cette île. Donc quand ils viennent découvrir ce que les habitants ont nommé l'œuvre du diable, le grand-père ne supporte pas de voir des gens sous ses fenêtres. Donc il les chasse à coups de carabine ou il demande à son maître d'œuvre d'en faire autant avec des pierres. Donc c'est une famille qui est quand même assez dure, assez violente.
Et le fils, qui est donc le père de Marnie, qui se prénomme Luc,
oui.
Alors lui, c'est une vie un peu catastrophique et il rend la vie de sa mère catastrophique et
il rend la vie de tout le monde catastrophique. Oui. C'est-à-dire mais simplement, il suit sa trajectoire. C'est-à-dire qu'il est très attiré par tout ce qui brille, par les lumières, par le bruit, par les klaxons. Alors évidemment, il ne va pas trouver tout ça dans l'île. Il va aller le chercher sur le continent. Et puis, il va découvrir les casinos. Tout ça va aller avec. Il va s'acheter des vieilles voitures. Et évidemment, tout le monde s'en fout dans l'île. Quand il est, comme le dit très bien Marnie, les routes ne sont pas assez droites pour qu'il puisse vraiment rouler vite dans l'île. Donc, tout ça, il va le chercher sur le continent. Et il va tomber fou amoureux de sa femme, qu'il va rencontrer par hasard sur le continent. Il va l'épouser, mais vraiment très rapidement. Et elle, très rapidement, va comprendre que pour qu'elle le revoie, il va falloir qu'elle accepte cette part de lumière qui est en lui, c'est-à-dire cet attrait qu'il a, comme les insectes sous les lampes, cet attrait qu'il a pour tout, pour la luxure, pour les prostituées qu'il va voir. Et donc... L'amour vrai pardonne, comme on dit en général. Et donc, elle va lui pardonner, mais ce qui ne va pas empêcher, évidemment, la souffrance de cette femme.
Pour la petite adolescente qui est au cœur de ton roman, Gilles, dont je rappelle le titre « Le vertige des falaises », la vie, effectivement, des adultes lui semble immonde. Il n'y a que la grand-mère qui est... Bon, la grand-mère et la mère, mais la grand-mère reste un personnage héroïque. C'est un peu aussi l'héroïne. Elle est dans l'ombre de Marnie.
Je ne sais pas si c'est... Je pense que Marnie, en fait, ne les juge pas. Elle n'a pas de jugement, au fond, sur ces gens. Elle se rend compte que son père fait souffrir sa mère, que sa mère pleure en silence, parfois... Et puis en plus, après, elle est atteinte d'une maladie. Donc, que son père, quand il vient, amène des cadeaux, mais qui sont toujours trop grands pour elle, qui sont toujours pas à la taille, qui sont des cadeaux qu'on met de côté en général. Elle porte pas vraiment de jugement sur son père, mais elle comprend qu'il fait du mal un peu à tout le monde. Et donc, elle s'en détache. Mais il n'y a pas de rapport violent par rapport à ça et par rapport à son père. Et je pense que la grand-mère a compris qu'elle n'était pas Olivia, a compris qu'elle avait jamais été une bonne mère avec Luc, qu'elle ne le comprenait pas déjà quand il était enfant, avec ses caprices, ses colères, ça l'agaçait, elle a démissionné très vite. Et au fond, elle va juste le protéger parce qu'à un moment donné, il y va aussi de sa vie à elle et de sa vie à lui. Donc elle va le protéger d'une certaine manière. Elle deviendra mère tardivement avec lui.
Ce que tu dis, Gilles, est intéressant parce que c'est vrai, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'être une bonne mère ? Tes romans, souvent, en filigrane, il y a cette question.
Oui, c'est vrai.
Ou qu'est-ce qu'être un bon parent ?
Oui,
c'est difficile.
C'est très dur.
On ne réussit pas forcément.
C'est très dur, il ne faut pas dire que c'est facile et que ça arrive à tout le monde. C'est très compliqué. C'est quand même dans les familles. On peut passer des moments évidemment merveilleux, il ne faut pas arrêter non plus, il ne faut pas dire que c'est... Mais c'est quand même dans les familles qu'on se dit les choses les pires, qu'on est capable de sortir des horreurs. C'est pas entre amis qu'on va faire ça, généralement.
Mais Gilles reconnaît aussi que c'est pas parce qu'on devient père que l'on devient forcément un adulte aussi. On peut un gamin en étant un bon papa.
Je sais bien. Tout est possible, hein. Toutes les variétés sont possibles dans les constructions des familles. Pour un écrivain comme moi, évidemment, le terreau des familles, c'est fascinant. Je me vois pas aller chercher ailleurs alors que j'ai tout sous la main.
Alors, les hommes n'ont pas les beaux rôles dans ce roman. Même le jeune Vinci, donc le petit amoureux de Marnie, même Vinci, il est un peu bébête. Il a quand même le culot de taper dans la caisse de la pharmacie paternelle pour s'offrir une petite sortie sur le continent avec
Marnie. Ils sont tous. Il y a une forme d'amoralité dans ce roman que je revendique tout à fait. Et Vinci, c'est pas qu'il est bébête, mais je pense qu'il est tombé fou amoureux de Marnie et puis il veut lui donner le meilleur. Et c'est lui d'ailleurs qui va l'attirer vers la lumière. Donc je trouve que c'est important dans l'histoire. Après, les hommes sont déchus dans cette histoire. Et quand vous écrivez, j'ai rien contre les hommes évidemment, mais quand vous écrivez une part romanesque, ça faisait partie du projet du roman au départ, d'imaginer des hommes déchus. Et au fond, est-ce que les femmes ne sont pas plus résilientes que les hommes en général ? Est-ce que, d'une certaine manière, je ne voulais pas montrer seulement des femmes fortes ? Parce qu'on découvrira qu'Olivia, Marnie, Rose, toutes ces femmes, même la fleuriste, ont des fêlures, ont des failles, elles ont des passades difficiles, mais c'est quand même elles qui s'en sortent le mieux.
C'est intéressant aussi ce que la prostituée raconte.
Oui, bien sûr. Alors, la prostituée, je trouvais que c'était difficile de ne pas faire quelque chose de caricatural en même temps. Mais pourquoi, au fond, cette prostituée, qui évidemment n'est pas sur l'île, on s'en doute, mais sur le continent, qui révélera à la fin des éléments importants sur certains des personnages qui évidemment viennent chez elle. Elle sait ce qu'elle fait, elle le fait depuis quand même elle aussi longtemps, 30 ans, donc elle n'a plus du tout d'illusions sur son métier ni sur la manière de... Mais elle croit peut-être encore à quelque chose qui pourrait la sortir de là, et je trouve ça amusant de la part d'une femme lucide.
Et les secrets finissent par être connus, parce que c'est une sorte de huis clos sur une île, finalement. J'adore, par exemple, Côme le curé, qui se trouve dans une situation bien embarrassante. Alors, on ne peut pas trop en dire
mais il est bien embêté,
le curé.
Mais
aussi,
je voulais faire un curé aussi. Je pense que quand on lit le chapitre où le curé va se mettre à parler, on sera étonné, parce que ce n'est pas du tout le curé auquel on s'attend. C'est-à-dire qu'on sait qu'Olivia a eu beaucoup de problèmes, on sait qu'elle a choisi deux confidents. Elle a choisi le curé pour se confier et le médecin pour se faire guérir. Ils sont tous les deux liés par le secret professionnel, donc ils ne peuvent absolument rien dire. Mais visiblement, ce qu'elle a dit à Côme l'a ébranlé. Et on découvrira un curé qui est en révolte totalement sur l'île de cette famille, à qui il en veut beaucoup.
Et d'ailleurs, Olivia n'aime pas beaucoup Dieu, finalement. Elle reproche aussi à Dieu de ne pas l'avoir accompagnée.
Surtout Marnie. C'est surtout Marnie qui est très... Parce que elle va crier d'ailleurs parce qu'elle trouve que comme dans sa vie au fond, où son père n'est jamais là, quand elle va à l'église, Dieu n'est jamais là non plus. Donc elle fait des comparaisons comme ça, rapides. C'est une adolescente. C'est surtout elle qui est très... Elle va se mettre à crier et à ne plus vouloir mettre les pieds d'ailleurs dans l'église pour des tas de raisons.
Gilles, on marque une dernière pause musicale et on te retrouve dans une poignée de minutes. Je rappelle que Gilles Paris est l'auteur d'un tout dernier roman, c'est son cinquième. C'est Le Vertige des Falaises en librairie aux éditions Plon. Bonne soirée, nous revenons d'ici quelques minutes.
Fever for love's romance.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Gilles Paris nous accompagne. Le Vertige des Falaises, le titre de son dernier roman, disponible chez Plon. Gilles, cinquième roman, on sait qu'il y en a un sixième en préparation, pour 2018 plutôt.
Dans deux ans, oui.
D'accord, on va te laisser un petit peu le temps déjà de faire la tournée de promotion du film Ma vie de courgette, adapté de ton roman Autobiographie d'une courgette, que l'on peut se procurer maintenant en édition de poche à prix très modeste.
Tout à fait,
modeste,
chez Gélu ou Flammarion. Très bien.
Notamment cette collection étonnantissime, oui, chez Flammarion, avec un apparat critique pour les enseignants.
Pour les
tu
enseignants,
as des enseignants
et
qui
puis
l'utilisent.
Ils ont beaucoup. Et puis on a, dans la version de Flammarion, on a un cahier photo du film qui est assez chouette, donc dans la nouvelle version qui a été faite.
Gilles, mes sources sont un peu confuses, mais j'ai noté page 101 dans Le Vertige des Falaises, cette citation. Je ne sais plus si c'est Marnie ou si c'est Olivia, la grand-mère, qui déclare cela. Les garçons sont des mauvaises herbes qu'il faut arracher et jeter au fumier. C'est Marnie ?
C'est tout à fait Marnie, absolument. C'est une phrase assez violente qui illustre un peu ce qu'on disait des hommes tout à l'heure, la partie déchue des hommes dans ce roman. Il faut toujours se... Enfin, essayer de comprendre ce qu'un écrivain essaye de faire, au fond, à travers un livre. Moi, je n'ai pas de message particulier. Je veux que les gens prennent un temps à lire mes livres, réfléchissent à ce sujet-là et tout en lisant, perdent peut-être une certaine fois la notion du temps. Mais encore une fois, je trouve que quand on choisit que les hommes de ce roman vont être déchus, il faut absolument... que ça soit vu sous la part romanesque du livre.
La fin du roman réserve tout de même de belles grandes surprises.
Absolument.
Si effectivement l'île est à sa part de malédiction, il y a une sorte d'île,
oui,
maudite. Hein.
Oui, 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 c'est, je suis tout à fait. Il y a une sorte de malédiction des Mortomères, ça c'est sûr.
Et ça pourrait presque... Tu aurais pu penser à mettre un cœur, comme dans la tragédie antique grecque, un cœur qui aurait pu être le narrateur.
J'aime beaucoup la couverture du livre. D'ailleurs, ce qui est drôle, enfin, je le dis rapidement, mais avec mon éditeur, Grégory Berthier, j'avais ça en tête et lui m'a demandé, il me dit, ne dis rien, je t'envoie tout de suite une photo par email. Et il a envoyé la photo à laquelle je pensais. Donc c'est vraiment, on était en raccord le plus complet sur cette idée-là. Et je trouve qu'elle est belle, elle est mystérieuse, elle est assez envoûtante en même temps.
Et
elle correspond bien au livre.
Et il faut apprendre Le Vertige des Falaises. Et peut-être qu'aussi, c'est pour nous qui lisons le roman, une réflexion sur apprendre le vertige de ce qui peut nous pendre au nez à tout moment de l'existence.
Oui, bien sûr. Bien sûr,
ça peut être la chute, comme ça peut être la remontée aussi.
La remontée, hein. Mais tous mes romans sont un peu conçus et construits comme ça. C'est là où on trouve des passerelles et des ponts entre tous les livres.
Alors, Gilles, page 138, j'ai trouvé une expression remarquable, c'est les mots poison. Les mots poison, les secrets, la culpabilité, la malhonnêteté, des mots poison. Et toi, quels sont tes mots poison? Quels sont les mots poison, les mots que tu détestes, ceux que tu aimerais peut-être pouvoir même rayer, biffer dans un dictionnaire et qui rendent le quotidien pénible ou malsain?
La vengeance, la jalousie... tout ce qui fait que les gens s'aveuglent parfois sur des extrêmes. Moi, je suis quelqu'un de très excessif, et quand on est excessif, il faut à un moment donné remplacer les mauvais excès par les bons. Parce qu'il y a des bons excès aussi.
Ce sera donc le mot de la fin. Merci Gilles. Le Vertige des Falaises, donc, pour vous rendre sur l'île et aller découvrir les secrets de cette famille de Mortemère. L'adolescence de Marnie, la terrible vie de sa grand-mère Olivia, de sa mère également, un père qui a un parcours chaotique, un grand-père qui aurait pu être une figure tutélaire et qui pourtant est un beau salaud. Enfin, tous ces ingrédients racontés par de multiples personnages, romans chorales, qui nous amènent dans une ambiance glauque de thriller à la Hitchcock.
Oui, je dirais pas glauque, je dirais une sorte de suspense. Et comme tous mes romans, il y a de l'ombre, mais il y a beaucoup de lumière aussi.
Un grand merci, merci Gilles. Le Vertige des Falaises, donc aux éditions Plon. C'est la fin de ce wagon livre qui a été enregistré au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon, alors que Gilles Paris était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. C'est aussi l'occasion de rappeler que chaque mois, vous pouvez venir à Dijon. Hein, quand on habite dans Lyon, c'est pas bien loin. Je le fais moi-même depuis Avallon. Donc, et c'est aussi l'occasion de rencontrer des écrivains de figure nationale, Club des écrivains, présidé par Bernard Lecomte, que je salue puisqu'il vient de nous rejoindre, il est juste à côté, et qui arrive de Lyon à Dijon. Voilà, et bien moi je vous laisse terminer cette soirée à l'écoute des programmes de Radio Lyon en vous recommandant Le Vertige des Falaises de Gilles Paris et les autres romans, bien sûr, toujours disponibles. Bonne soirée à toutes et à tous, au revoir et à la semaine prochaine.
À bientôt.